Le grand navire Titanic coulait dans les eaux de l'Atlantique Nord vers 2 heures du matin. Et j'ai eu à cœur de parler de cela parce que c'est un symbole vraiment de notre vie et de notre société. Et il faut bien choisir la barque dans laquelle on monte. La barque ou le bateau, c'est vraiment une image de la vie. Comme on dit, hein, on est tous dans le même bateau. Et je me suis dit, il faut bien choisir sa barque parce qu'il y a des barques qui vont à la perdition et il y a des barques qui vont vers la vie éternelle. Le Titanic est une image aussi de notre société et de l'orgueil de l'être humain. L'être humain qui pensait être plus fort que Dieu. Lorsque les passagers ont embarqué le 10 avril 1912, il y a une dame qui s'appelait Sylvia Caldwell qui a demandé à un membre d'équipage: c'est vrai que ce bateau est insubmersible? Et le membre d'équipage a dit: oui, madame, Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce bateau. Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce bateau. Pourtant, lors de son premier voyage, il a coulé. 2200 passagers étaient présents, 1500 environ sont morts, 700 rescapés. C'est un iceberg qui est à l'origine de la voie d'eau, mais en fait, l'iceberg est pour très peu dans cette histoire. La vraie cause de ce naufrage, c'est l'orgueil et l'arrogance des hommes. L'orgueil du gigantisme. On était en 1912, on pensait que la technologie, toute nouvelle, allait résoudre tous les problèmes de l'humanité, que l'homme, enfin, avait surmonté toutes ces difficultés, qu'il est arrivé à un stade de l'évolution. On parlait beaucoup de la théorie de l'évolution, qu'on n'avait plus besoin de Dieu, que désormais on était au-dessus de Dieu et qu'on pouvait bâtir par la technologie un monde paradisiaque. Le naufrage du Titanic était là pour montrer que c'était une folie. Et la Deuxième Guerre mondiale, qui a commencé en 1914, a montré que l'homme était loin d'être évolué, puisque c'est là qu'il y a eu des millions de morts, sans parler de la Deuxième Guerre mondiale qui a suivi. L'orgueil du gigantisme, et puis la course au record. Le capitaine voulait battre le record de la traversée, donc il a mis, hein, les moteurs à fond. Ils avançaient à 22 nœuds, ce qui était beaucoup trop vite pour éviter les obstacles. Et quand il a reçu des signaux d'autres bateaux sur zone qui disaient: attention, il y a tout un groupe d'icebergs qui arrive, ralentissez! Le capitaine a dit: non, nous sommes sur le Titanic. Rien ne peut l'arrêter. Ils avaient aussi foi dans la résistance de leur bateau. Le bateau était considéré comme quasiment insubmersible par les ingénieurs parce qu'ils avaient mis dedans des compartiments étanches. Ils se sont dit, s'il y en a un qui est rempli, les autres ne seront pas remplis et donc le bateau ne peut pas couler. Même s'il y avait trois compartiments à l'intérieur qui étaient remplis d'eau, le bateau continuerait à voguer. C'était une belle idée, sauf qu'ils avaient oublié de faire les compartiments assez hauts. Et lorsque l'eau est rentrée, elle a rempli le premier. Et quand il a débordé, il a rempli le second. Et quand il a débordé, il a rempli le troisième. Et finalement, le bateau a coulé de lui-même par la faute des ingénieurs, on peut dire. Les rivets étaient de mauvaise qualité par souci d'économie. Et c'est d'ailleurs la faute des rivets en partie aussi, puisque quand ils ont cogné l'iceberg, les rivets ont tous cédé sur une grande longueur et la coque s'est entrouverte comme ça, laissant passer l'eau librement. Il y a certains passagers qui n'ont pas voulu quitter le navire. Il y a certaines femmes qu'on a dû mettre de force dans les canots de sauvetage. Pourquoi? Parce qu'elles disaient: mais non, c'est un bateau qui ne peut pas couler. Je préfère être sur le Titanic que sur cette barque. Ça me fait vraiment penser à l'Évangile, hein? On parle de Jésus-Christ, on dit: sauvez-vous de cette génération, tournez-vous vers Christ, il est le Sauveur. Mais non, je préfère rester dans ce monde que d'aller dans la barque de sauvetage, hein, de Jésus-Christ. La foi dans le bateau était tellement forte que même le capitaine et ses seconds et tous ceux qui commandaient le bateau disaient aux gens « Rassurez-vous, ce bateau ne peut pas couler ». D'ailleurs, il n'avait pas fait assez de bateaux de sauvetage, de canots de sauvetage, parce qu'il s'est dit « C'est un bateau qui ne peut pas couler, donc à quoi ça sert d'avoir trop de canots de sauvetage ?» Ça va gêner même le pont supérieur où on pouvait se promener. On préfère que les gens aient un moment romantique qui n'ait pas tous ces canaux-là qui les gênent. Alors, il n'y en avait vraiment pas assez. Et puis, les radios, hein, les opérateurs radio n'ont pas retransmis certains messages. Le capitaine a mal conduit, enfin le second qui était aux commandes. Et puis, il n'arrivait pas à croire que ce bateau pouvait couler. C'est vraiment une image de notre société. Pardon. Alors, excusez-moi. Voilà. Une image de notre société qui est sûre d'elle, qui a mis Dieu dehors en disant « Nous n'avons plus besoin de Dieu. Maintenant, nous avons tout. Nous avons l'humanisme. L'homme peut résoudre tous ses problèmes. » Et cet orgueil nous pousse à la ruine, hein, nous pousse à couler comme le Titanic. Et il y a vraiment un choix à faire. Il faut ou on continue sur le Titanic avec cet orgueil, cette arrogance, dire « Mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Et quand je mourrai, je lui dirai à Dieu. » Ça, c'est l'arrogance. Et puis, il y a ceux qui disent « Je ne veux pas couler avec le Titanic. Hein. Je veux être sauvé. » Et qui acceptent le canot de sauvetage, qui acceptent le gilet de sauvetage qu'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Il y avait un livre prophétique sur le naufrage du Titanic et il y a des choses extraordinaires au sujet de ce bateau. En 1898, soit bien avant que le Titanic soit même conçu, un homme a écrit un livre, il s'appelle Morgan Robertson. Son livre est un roman qui décrit le naufrage dans l'Atlantique Nord d'un énorme navire appelé Titan. Au mois d'avril, à minuit, heurtant à pleine vitesse par tribord un iceberg qui cause la mort de 2000 passagers. Si vous regardez ce roman, il est écrit des années avant le Titanic et c'est exactement l'histoire du Titanic. En plus, le bateau s'appelle le Titan. Pour moi, c'est quelque part une sorte d'avertissement de Dieu. Cet auteur, il a écrit un roman, il ne pensait pas avoir des visions ou quoi que ce soit, mais en fait, il a prophétisé quelque part. Le Seigneur avertissait déjà les hommes. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu ne se réjouit pas quand un bateau coule, n'est-ce pas ? Dieu ne se réjouit pas de voir les sociétés s'enfoncer dans les ténèbres et dans le chaos. C'est les hommes qui s'y mettent eux-mêmes. Ce que Dieu veut faire, c'est nous sortir, hein, nous sauver. Et c'est pour ça qu'il a envoyé ses disciples depuis le début. C'est pour ça qu'il a d'abord envoyé son Fils pour mourir pour nos péchés. Et c'est pour ça qu'il y a des églises, qu'il y a des chrétiens qui partagent la bonne nouvelle pour dire « Sauvez-vous, sortez du Titanic hein, et tournez-vous vers Christ, parce que le jugement un jour va tomber. » Il y a une autre histoire à propos du Titanic, une histoire méconnue en France, c'est celle de John Harper. John Harper est un pasteur baptiste écossais de l'église de Paisley Road, près de Glasgow. Et il avait été invité par l'église de Moody à Chicago à prêcher l'évangile, donc à Chicago, aux États-Unis. Et pendant 3 mois, il avait prêché. Et il y avait eu des fruits extraordinaires. C'était un homme de Dieu. Des âmes étaient sauvées. Et il est revenu à Glasgow. Et l'église de Chicago a dit « Il faut que vous reveniez prêcher l'évangile chez nous. » Alors il a accepté leur invitation. Et malheureusement, on pourrait dire, ou heureusement, il a pris le Titanic pour traverser l'Atlantique. Puisqu'à cette époque-là, on ne traversait l'Atlantique qu'en bateau. Il avait 40 ans. Il a fait le voyage avec sa petite fille de 6 ans qui s'appelait Nina et sa belle-sœur. Sa belle-sœur gardait sa petite fille parce qu'il était veuf depuis peu. Et tous les trois ont embarqué à bord du Titanic. John Harper est devenu chrétien à travers ses parents, à l'âge de 14 ans. Ses parents ont connu le réveil d'Ulster en 1859 et John Harper avait connu le réveil du Pays de Galles en 1904 et c'était des chrétiens enflammés pour le Seigneur. Lui-même, à 18 ans, il reçoit l'appel d'annoncer l'évangile. Il ne tient plus en place, il avait déjà un métier, mais il dit « il faut que je serve le Seigneur ». Alors il est embauché, on peut dire, par une mission à Glasgow et on lui confie une église à Paisley Road avec 25 chrétiens pour démarrer. Et en 8 ans, l'église va passer de 25 à 500 personnes. C'est un homme qui passait son temps à parler du Seigneur à tout le monde, qui priait sans arrêt pour les âmes. Lorsque l'alerte du Titanic a sonné, il était minuit et de nombreux passagers faisaient encore la fête. Il y avait un orchestre, un concert. Beaucoup n'ont pas cru, d'ailleurs personne n'a senti vraiment le choc. Et puis finalement des signaux de détresse ont commencé à être lancés et là la panique s'est enclenchée. John Harper est allé voir ce qui se passait et puis il est revenu dans la chambre et il a dit à sa petite, on s'habille. Il a dit à sa belle-sœur, habillons-nous, mettons les gilets de sauvetage, il faut évacuer le navire. Et donc tous les trois arrivent à monter jusqu'au pont et il les met très vite dans la barque numéro 11 et sa belle-sœur et sa fille seront sauvées. On a ici une image de sa fille qui était la dernière survivante écossaise du Titanic, Nina, et qui a raconté l'histoire de son père, John Harper. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, d'abord, il a vu quelqu'un qui n'avait pas de gilet de sauvetage, il lui a dit, prenez mon gilet, tenez. Donc, il a donné son gilet de sauvetage à quelqu'un. On se dit, mais il est fou, le bateau menace de couler, lui, il donne son gilet. Mais lui, ça lui était égal s'il devait mourir dans ce naufrage. Il voulait sauver ceux qui n'étaient pas encore au Seigneur et qu'ils aient une chance de se repentir. Il y a des témoins qui racontent le cœur de John Harper. Son frère George, par exemple, dit « J'ai souvent prié avec mon frère. Et quand il priait, son corps tremblait comme une feuille, tant il plaidait ardemment avec Dieu pour le monde qui périt. Il pleurait souvent dans la prière. Et ce n'est pas étonnant que les cœurs les plus durs étaient brisés et que les volontés les plus têtues étaient soumises à Dieu sous l'influence de son ministère. » Un pasteur qui a été son successeur à Paisley Road, John Dick, qui dit « La passion de sa vie était de gagner des âmes. Il arrivait souvent qu'avant de se coucher le samedi soir, il plaide pour les âmes, priant et pleurant pour que la puissance divine lui soit donnée le dimanche matin » lorsqu'il prêcherait pour la gloire de Dieu. Un ami évangéliste qui s'appelait Dunn a écrit aussi « Combien de fois j'ai entendu le pasteur Harper dire, alors qu'il était face contre terre devant Dieu et tout en transpiration, « Donne-moi des âmes ou je meurs. » Puis il sanglotait comme si son cœur allait se briser. Voilà le caractère de John Harper. Quand l'alarme a été sonnée, que tout le monde a commencé, surtout les femmes et les enfants, à monter dans les barques, il a crié, « Les femmes, les enfants et ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu, montez dans les canots. » Sous-entendu, ceux qui sont en règle avec Dieu et dont les autres. Nous, on n'a pas peur de mourir. Il y a des survivants qui ont raconté qu'ils ont vu Harper prier à genoux avec un groupe de personnes sur le pont supérieur. Imaginez un petit peu la panique. Et vous avez 2200 personnes qui courent dans tous les sens. Les canots de sauvetage, c'est la nuit, il fait froid. On essaie de trouver des canots en suffisance. Les enfants pleurent parce qu'ils ont été réveillés. Et Harper, lui, ce qui l'intéresse, c'est de prier avec les gens. Il est à genoux avec un groupe et il leur annonce l'évangile et ils prient ensemble. Autour d'eux, des cris des gens qui courent, mais lui, il prie pour qu'ils reçoivent le salut. Vers 2 heures du matin, le bateau se remplit d'eau complètement et penche très dangereusement. Et c'est à 2h40 qu'il va périr, coulé corps et biens. 4 ans après la tragédie, il y a eu une rencontre des survivants au Canada, en Ontario. Et il y a un survivant qui a raconté une chose étonnante. Il dit « Moi, je suis le dernier converti de John Harper ». Et son histoire est extraordinaire. Il dit « Nous étions environ 1 000 000 dans l'eau, accrochés à des débris, criant, pleurant, gelant, sachant qu'il n'y avait pas assez de place dans les canaux. Hein. Beaucoup avaient sauté à l'eau, mais ils n'avaient pas de canaux. Et d'ailleurs, les historiens disent que les canaux de sauvetage ont éteint leur lumière pour que ceux qui étaient dans l'eau ne puissent pas les trouver. On est dans l'Atlantique Nord au mois d'avril. Ce n'est pas les Bahamas. Hein. L'eau était proche de zéro. Le temps de vie était très court. Et chacun avait attrapé quelque chose. Et cet homme avait attrapé un débris. Il s'était mis dessus. Il était un peu protégé. Et il a vu, un moment, John Harper accroché à un débris et en train de nager. Et John Harper s'est approché de lui. Il lui a dit « Êtes-vous sauvé, jeune homme ?» Alors, il a dit « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce que tu es sauvé ? Est-ce que tu connais le Seigneur ? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu ?» Il dit « Non. » Et puis, une vague l'a emporté plus loin. Donc, ils se sont séparés. Et il a vu John Harper parler avec d'autres personnes, hein, crier aux gens « Est-ce que vous êtes sauvé ?» Certains ne comprenaient pas, alors il leur parlait de l'amour de Jésus qui s'est livré à la croix pour nous et qui peut nous permettre d'être sauvés même un instant avant de mourir. Hein. Comme le brigand crucifié avec Jésus qui a été sauvé alors qu'il était voué à la condamnation à mort. Et il dit « Moi, je luttais encore pour survivre dans cette eau et puis soudain, une vague m'a ramené John Harper. » Ça, c'est quand même quelque chose, hein. Et il m'a reparlé de l'amour du Seigneur. Et finalement, on s'est séparés et je l'ai vu épuisé, parce qu'il nageait à chaque fois pour essayer d'atteindre d'autres passagers qui étaient dans l'eau. Il dit à un moment, je pense qu'il avait trop froid, il était trop épuisé et il a disparu. Il dit, moi, j'étais sur mon bout de je ne sais pas quoi hein, qui flottait et j'ai pensé aux 2 kilomètres d'eau, enfin j'ai pensé à toute l'eau qu'il y avait en dessous, la mort. Jésus-Christ dont m'avait parlé cet homme, cet ange, hein, on l'a appelé l'ange d'ailleurs, hein, du Titanic. Et il dit, j'ai demandé à Jésus-Christ de me pardonner et de me sauver. Et quelque temps après, un bateau, hein, ce qui est arrivé sur les lieux, l'a récupéré et il faisait partie des survivants. Le dernier converti de John Harper. On peut noircir l'écran maintenant. Merci. Qu'est-ce que nous ferions si nous étions dans un bateau qui coule ? Est-ce qu'on paniquerait, on penserait à sauver sa peau ? Où est-ce qu'on aurait cette assurance qu'avait John Harper? Il était prêt à mourir du moment qu'il pouvait sauver des âmes. Ça, c'est la grâce de Dieu. Hein. Même dans les pires situations, Dieu fait encore grâce. Et vous savez, nous ne sommes pas dans un bateau qui coule aussi... Ce n'est pas aussi flagrant, mais peut-être que dans votre vie, il y a une voie d'eau. Il y a l'eau qui rentre, hein. Et votre vie est en train de sombrer petit à petit. Peut-être qu'il y a des péchés dans votre vie qui vous font couler. Qu'il y a des addictions, qu'il y a des drames, qu'il y a des mauvaises pensées dans votre cœur hein, qui vous font couler. C'est le moment de crier vers Jésus-Christ. Crier, ça ne veut pas dire juste à haute voix, mais crier dans votre cœur. « Seigneur, viens à mon secours. » Sauve-moi, toi qui es mort pour moi sur cette croix. Parce que le Seigneur n'est pas mort en vain, il est ressuscité des morts, nous l'avons vu la semaine dernière. Et il est mort glorieusement pour nos péchés. Il a vaincu la condamnation. Dans la Bible, il y a des bateaux qui nous parlent encore. Là, on a parlé du Titanic parce que c'est le 100e anniversaire. Mais il y a des bateaux. J'aimerais juste d'abord lire ces versets qui résument la folie de l'homme sans Dieu. Proverbe 14, Verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. On se dit, tout va bien pour moi, moi je n'ai pas de problème, pourquoi je me tournerai vers Dieu ? Tout va bien, je suis en bonne santé, je ne vais pas mourir tout de suite. Ça, c'est une folie, dit la Bible. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Proverbe 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Il est temps de se repentir de notre orgueil, de notre arrogance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la Bible, vis-à-vis de Jésus-Christ. Moi, j'étais comme ça, hein, quand j'avais 18 ans. J'étais d'une arrogance horrible envers Dieu, envers Christ, envers les chrétiens. Pour moi, les chrétiens, c'était des moutons qui suivaient bêtement un faux messie qui était manipulé par l'Église ou les Églises. Et puis quand j'ai découvert le Jésus de la Bible, j'ai compris que ce n'était pas un faux messie, c'était vraiment le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Et je me suis repenti de mon orgueil qui jusque-là m'avait fait fuir Dieu. Le premier bateau dont j'aimerais parler de la Bible, c'est l'arche de Noé. En Genèse chapitre 6, Dieu voit que la terre est complètement en proie à la violence et à la corruption. C'était une époque où les gens ne pensaient qu'au mal en permanence et ils ne pensaient qu'à se faire du mal les uns les autres. Et Dieu dit, il faut que je juge ce monde avant qu'il sombre corps et biens et que l'humanité disparaisse en s'entretuant. Et donc, il cherche un homme qui a foi en lui, et il trouve Noé. Et il dit à Noé, tu vas construire un bateau, une arche, et tous ceux qui entreront dans le bateau seront sauvés du jugement que je vais envoyer. Ce sera un jugement par un déluge d'eau qui noiera le monde et la terre. Et Noé a obéi, il a commencé à construire son bateau, et le Nouveau Testament nous dit que Noé était un prédicateur de la justice. Il prêchait aux autres. Ce n'est pas simplement qu'il construisait son bateau dans son coin, mais il disait aux autres, le jugement va venir. Repentez-vous, venez avec moi dans l'arche, venez m'aider. Et le drame, c'est que personne n'est venu. Personne n'a voulu l'entendre. Et on peut imaginer, hein, même si ce n'est pas raconté dans la Bible, les gens qui ont dit à Noé, mais tu es fou, Noé. Depuis quand t'as vu un déluge d'eau qui noie la terre, toi ? Tu as eu des voix, tu as trop bu de vin. Et Noé a dit, mais vous voyez bien qu'il y a la corruption, qu'il va y avoir un jugement. Vous avez une conscience qui vous accuse. Mais non, on fait ce qui nous plaît. Ne viens pas nous mettre des interdits, Noé. Hein ? On fait ce qui nous plaît et ce n'est pas ton Dieu qui va nous empêcher. Et la Bible dit, Jésus dit que les hommes se mariaient, mangeaient, buvaient, jusqu'à ce que Dieu referme la porte de l'arche. Et quand la porte a été fermée par Dieu, le déluge est tombé et c'était trop tard. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre nous dit qu'il y avait des moqueurs du temps de Noé et qu'il y a encore aujourd'hui des moqueurs. Lorsqu'on dit, il va y avoir un jugement, Jésus-Christ va revenir juger le monde. Ça fait sourire. Hein. Depuis quand il a promis de revenir ? Ça fait 2000 ans, il n'est toujours pas là, dis donc, il est en retard. Hein. Et puis un jugement, mais arrêtez, on n'est plus au Moyen-Âge. Hein. L'homme est maître de son destin, n'est-ce pas ? Mais quand vous voyez les nations qui sont en train de sombrer, hein, des crises économiques, des crises morales, des crises politiques, des crises spirituelles, c'est crise sur crise. Des guerres en préparation, des guerres en action. Il y a un jugement qui va venir. Quand vous voyez la cruauté des gens, des enfants, des parents, ces parents qui ont mis leur enfant dans une machine à laver pour le punir, est-ce qu'on peut même imaginer une chose pareille ? Il y aura un jugement pour tout cela, pas simplement pour ces parents-là, mais il y aura un jugement pour tout péché. Et c'est pour ça que le Seigneur dit « Montez dans l'arche, L'arche, c'est quoi? L'arche, c'est Jésus-Christ. Il est notre arche. Ce n'est pas une église ou une autre. Hein. L'arche, c'est Jésus-Christ. Et il faut venir dans le bateau de Christ pour être sauvé. Un autre bateau dans la Bible qui est intéressant, c'est le bateau du refus, le bateau de Jonas. Jonas était un homme de Dieu, il croyait au Seigneur, il était juif, et Dieu dit à Jonas, tu vas aller prêcher le jugement à Ninive, aux Assyriens, pour qu'ils se repentent et que je puisse les pardonner et les gracier. Et Jonas a désobéi, il ne voulait pas aller voir les Assyriens. La Syrie était à l'ouest, il est allé de l'autre côté vers Tarsis, il a pris le premier bateau qui prenait la tangente, comme on dit. Et dans ce bateau, Dieu a envoyé des choses terribles, hein, une tempête, mais tellement forte que tous les marins ont dit, ça y est, c'est fini. On va tous mourir. Et ils ont réveillé Jonas qui dormait au fond de la cale. Et ils ont dit, est-ce que tu sais pourquoi il y a cette tempête? Et Jonas dit, oui. C'est très certainement à cause de moi. Alors il a dit, jetez-moi par-dessus bord, comme ça vous, vous serez sains et saufs. Et moi, je n'ai que ce que je mérite. Et il est jeté par-dessus bord et Dieu avait envoyé ce grand poisson qui passait par là pour qu'il avale Jonas. Et Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans ce grand poisson. C'est déjà une image hein, de Jésus-Christ qui est resté 3 jours et 3 nuits dans la mort pour nous. Mais l'image pour nous, là, nous chrétiens, c'est qu'il a fallu qu'il soit dans ce ventre du poisson, qu'il soit mourant, hein, parce que quand vous êtes avalé par un poisson, vous dites, bon ben voilà, c'est fini, je vais mourir là, dans ce ventre. C'est arrivé, hein, il y a un pêcheur de baleines qui a été avalé par un cachalot et qui est resté quelques heures dans son ventre. Ses camarades ont pu tuer la bête, ouvrir le ventre et le sortir avant qu'il ne meure. Dans le ventre de la bête, Jonas a prié. Au chapitre 2 de son livre, il est écrit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Jonas a dû mourir à lui-même pour commencer à craindre Dieu et à lui obéir. Le Seigneur nous appelle, nous chrétiens, à le servir aussi. Lui, il fallait qu'il aille parler aux Assyriens. Nous, il faut qu'on parle aux Parisiens. Mais il y a une résistance dans nos cœurs. On dit, non, ils sont trop durs. Non, ils ne méritent pas. Ils sont trop orgueilleux. Et le Seigneur dit, vas-y, je t'envoie pour leur annoncer le message, l'évangile. Et certains résistent et même désobéissent, vont dans l'autre côté. Si c'est votre cas, il faut que vous compreniez que le Seigneur veut vous utiliser pour sa gloire, pour le bien, pour le salut des autres. Ne résistez pas plus. Il faut comprendre qu'il faut mourir à nous-mêmes, hein, quelque part, à nos projets, nos plans. Je peux particulièrement en parler puisque c'est ce qui m'est arrivé. Je ne voulais pas être pasteur, je ne voulais pas servir Dieu. Mais le Seigneur m'a appelé et il m'a montré combien c'était merveilleux de le servir. Et finalement, j'ai cédé devant la grandeur et la bonté de Dieu. Ne soyons pas des Jonas. Ne prenez pas le bateau de Tarsis. Acceptez la mission que Dieu vous confie. Si Dieu vous appelle, acceptez-le avec joie et vous aurez des résultats et des fruits merveilleux. Le dernier bateau de la Bible dont j'aimerais parler, c'est le bateau de l'épreuve. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, les disciples traversent le lac de Galilée. Vous savez que les lacs sont particulièrement dangereux parce que lorsque la tempête se lève sur un lac, ça crée des tourbillons terribles. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi » et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Ça, c'est encore pour le croyant. Si vous avez le Seigneur Jésus dans votre vie, il y aura quand même des tempêtes. Ce n'est pas parce que vous avez Jésus qu'il n'y a pas de tempête. Les disciples, là, c'était les plus proches disciples du Seigneur. Et ce qui nous étonne dans ce passage, c'est que Jésus dormait pendant la tempête. Franchement, déjà, quand la mer est un peu forte, c'est très dur de dormir sur un bateau parce que vous avez l'estomac qui... Mais quand il y a une forte tempête avec des tourbillons, vous êtes très vite réveillé. Et Jésus dormait. Pourquoi Jésus dormait-il? Parce que lui, il n'avait aucune inquiétude. Il était entre les mains du Père. Il savait que rien ne pouvait leur arriver qui ne soit dans la protection du Père céleste. Et les disciples, eux, ont paniqué, ce qu'on peut comprendre, bien que ce soit des pécheurs aguerris. Et ils ont dit, mais Seigneur, réveille-toi, regarde, on va mourir, fais quelque chose. Et là, le Seigneur, eh bien, a parlé au vent et à la mer. Il a montré qu'il était Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut parler au vent et à la mer, comme ça. Il y a deux leçons pour nous. Peut-être que vous êtes croyant, disciple de Christ, mais il y a des choses qui sont très dures à vivre pour vous. Une tempête, des tourbillons. Vous avez tendance à paniquer. Vous avez l'impression que Jésus dort, qui ne fait rien pour vous, qui ne vient pas vous aider. Vous priez, il n'y a rien qui se passe. Eh bien, que ce passage vous rassure, le Seigneur dort peut-être, mais il est là. Et tant qu'il est là dans votre barque, vous n'avez rien à craindre. Et s'il dort, c'est parce que vous n'avez rien à craindre. Dieu n'a pas dit qu'un chrétien n'aurait jamais de problème. Non, un chrétien a autant de problèmes que les autres. Et il a même des problèmes que les autres n'ont pas à cause de sa foi, de son témoignage pour Jésus. Mais dans les problèmes, nous avons le Seigneur qui est avec nous. Il est avec nous dans la barque. Si Jésus est dans ma barque, je n'ai rien à craindre. Quelles que soient les preuves que j'affronte, que ce soit une maladie grave, que ce soit un deuil, que ce soit une tragédie dans ma vie, le Seigneur est dans ma barque. Ce qu'il me demande, c'est d'avoir foi en lui, confiance en lui. C'est là que la foi doit se manifester. C'est dans les tempêtes. Mais la deuxième leçon, c'est si vous êtes au milieu d'une tempête, il vaut mieux que vous ayez Jésus dans votre barque. Parce que lui, il peut calmer la tempête. Mais si vous êtes sans Jésus-Christ, vous êtes comme sur le Titanic, il n'y a rien à faire. Le Titanic était condamné depuis le moment où il a heurté cet iceberg. Rien n'aurait pu le sauver. La Bible dit que nous sommes sous la colère de Dieu dès notre naissance, parce que nous sommes pécheurs. La Bible dit que nous sommes morts spirituellement par rapport à Dieu, que nous sommes ennemis de Dieu. La Bible dit que nous sommes en voie de périr, d'aller en enfer si nous ne changeons pas de voie. Et le Seigneur nous appelle à venir à lui, à laisser notre Titanic, notre confort. Le Titanic était un bateau particulièrement luxueux. À quitter notre vie de péché, d'orgueil, d'égoïsme, et à regarder à Christ et à dire « Je veux monter dans la barque ». Il n'y a pas de grands efforts à faire pour monter dans un canot de sauvetage. Tout ce qu'il faut faire, c'est monter dedans. Et c'est le canot qui vous sauve. C'est pareil pour la foi. Ce n'est pas nous qui pouvons nous sauver du jugement dernier. Ce n'est pas vos œuvres. N'essayez pas de nager en disant « Si je nage assez long ». Vous savez, ils étaient loin, loin, loin de toute côte. Personne n'aurait pu nager jusqu'à la côte, dans le naufrage du Titanic. Ce n'est pas en nageant, c'est en montant dans le canot, c'est en étant avec Jésus-Christ, dans l'arche de Dieu. Et si ce matin, il y a quelqu'un qui est en pleine tempête, spirituelle ou morale, je vous appelle à venir au Seigneur, à vous tourner vers lui, à dire « Seigneur, viens dans ma barque. Seigneur, je suis perdu sans toi. Seigneur, je crois que tu es le Sauveur, le seul salut. Et je te demande pardon pour ma rébellion et mon orgueil jusqu'ici. On va terminer par la prière.